Vous écoutez RTL.
Il est 18h.
Charlotte Arrigoni.
RTL Soir.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une demi-heure d'informations sur RTL. À la une, l'homme arrêté avec un couteau hier soir à la Tour Eiffel voulait s'en prendre à un militaire. La section antiterroriste s'est saisie de l'enquête. Nous ferons le point dans un instant. Le geste fou d'un policier dans le Var, il a tué deux pompiers avant de se suicider. L'une des victimes était l'amant de sa femme, l'autre un simple témoin. Des dizaines de personnes rassemblées cet après-midi devant le Cuba Libre à Rouen, un an après l'incendie qui a tué 14 jeunes lors d'un anniversaire, l'émotion est intacte. Dans ce journal aussi, la caravane des Insoumis a pris la route. Nous étions à ses côtés. Aux Mondiaux d'athlétisme à Londres, Renaud Lavillenie s'est qualifié pour la finale. Le foot, Lille de Bielsa a battu Nantes 3-0 cet après-midi. Angers accueille Bordeaux en ce moment. Philippe Audouin, un point sur le score.
Un but partout à la pause. Angers a ouvert le score en début de match par sa jeune recrue Fulgini. Égalisation bordelaise sans carré à la 27e minute d'une première mi-temps pauvre et assez ennuyante.
Merci Philippe, à tout à l'heure. Autre sport, le championnat du monde de décortiquage de crevettes grises dans le Nord. Nicole, championne depuis 10 ans, a été détrônée cette année. Reportage à suivre. Les courses avaient lieu cet après-midi à Deauville. La combinaison gagnante du Quintet, il fallait jouer le 2, le 10, le 14, le 6 et le 5. La météo, bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
Alors bonne nouvelle, on va démarrer la semaine par une belle journée.
C'est vrai, il fera un petit peu plus chaud, un petit peu plus beau partout. En tout cas, la matinée sera très ensoleillée partout en France. Dans l'après-midi, toutefois, quelques pluies orageuses vont remonter d'Espagne, par le sud-ouest évidemment. Elles vont passer la barrière pyrénéenne vers la mi-journée, puis remonter jusqu'au massif central dans le courant de l'après-midi. Mais partout ailleurs, cette journée restera très ensoleillée du matin au soir avec simplement 2-3 averses sur le relief des Alpes et sur le relief Corse. Dans le courant de la soirée, les températures, donc, elles regrimpent au nord, enfin, fourchette de 20 à 35 degrés dans l'après-midi de Cherbourg à Avignon. Pas moins de 27 à Paris et à Colmar demain après-midi. Ensuite, pour la journée de mardi, des orages partout, des températures qui vont continuer à descendre et surtout mercredi et jeudi seront deux journées pas forcément terribles et en plus en plus fraîches et partout.
Merci Valérie Quintin.
RTL Soir.
Le calme est revenu aujourd'hui à la Tour Eiffel, mais la soirée d'hier a été particulièrement agitée. Aux alentours de minuit, le monument a été évacué. Un homme a tenté de forcer un portique de sécurité muni d'une arme avant de crier « Allah Akbar, Dieu est grand » en arabe. Rapidement maîtrisé, il a été interpellé par les forces de l'ordre. Il n'y a pas eu de blessés. Nicolas Burnand, bonsoir.
Bonsoir.
Ce matin, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris, mais ce soir, c'est la section antiterroriste qui s'est saisie du dossier.
Oui, car tout porte à croire qu'il s'agit bien d'une tentative d'attentat. En garde à vue, cet homme âgé de 18 ans a revendiqué son passage à l'acte, indiquant qu'il voulait, à l'aide d'un couteau, s'attaquer à des militaires de l'opération Sentinelle déployés au pied de la Tour Eiffel. Il affirmait être en lien avec un membre du groupe État islamique. Ce djihadiste l'aurait même encouragé à s'en prendre à des soldats. Fiché S, proche de la mouvance islamiste, l'homme était connu des services de renseignement. Il avait déjà été condamné par la justice pour apologie du terrorisme. Et les premiers éléments de l'enquête mettent en avant la personnalité très fragile de cet individu de nationalité française, né en Mauritanie, domicilié dans le Val d'Oise. Il était pris en charge dans un service psychiatrique depuis plusieurs mois. Sa mesure d'hospitalisation venait d'être renouvelée pour les 6 prochains mois. C'est lors d'une permission de sortie accordée il y a quelques jours que cet homme n'a pas hésité seul à passer à l'acte aux abords de l'un des monuments les plus surveillés de la capitale.
Les précisions pour RTL de Nicolas Burnand. On l'a appris il y a moins d'une heure, la sénatrice de Seine-et-Marne et ancienne ministre de François Hollande, Nicole Bricq, est décédée à l'âge de 70 ans après avoir chuté accidentellement dans un escalier pendant ses vacances. Elle avait été l'une des premières parlementaires socialistes à rejoindre Emmanuel Macron après la création d'En Marche. Elle a été ministre de l'écologie et ministre du commerce. Elle sera inhumée dans les jours qui viennent à La Rochefoucauld en Charente, sa ville natale. Et à l'instant, Manuel Valls, le président vient d'écrire un message sur Twitter. Le président salue une militante entière, sincère et réformiste avant tout. C'est un drame qui s'est déroulé dans le Var la nuit dernière à Cogolin, près de Saint-Tropez. Un homme, policier de profession, a tué deux pompiers avec son âme de service avant de se suicider, Kelly Vargin.
Les premiers coups de feu ont été entendus aux alentours de 2h du matin. Le tireur Arnaud Daniel, un policier de la brigade anticriminalité de Toulon, s'est rendu au domicile de Pascal Bienvenu, situé dans un petit hameau de la commune de Cogolin, à une dizaine de kilomètres de Saint-Tropez. Ce dernier n'était pas seul, 4 personnes étaient présentes. 2 ont pu s'enfuir, Yvan Riel et le procureur de Draguignan.
Ces 2 personnes avec d'autres amis faisaient une fête dans leur domicile quand est intervenu Arnaud Daniel, l'auteur des faits, et a ouvert le feu sur M. Pascal Bienvenu, qui soupçonnait être l'amant de son épouse. M. Ocaso, constatant ces violences, s'est précipité sur M. Daniel Arnaud. Les témoignages nous disent qu'il l'a saisi par les épaules, lui demandant ce qu'il avait fait. Et bien, Daniel a ouvert le feu immédiatement, le tuant, pour ensuite repartir et se suicider quelques mètres plus loin.
Et la gendarmerie va procéder dans les prochains jours à une autopsie, une expertise toxicologique du tireur, Arnaud Daniel.
Kelly Vargin dans le Var pour RTL. Tout à l'heure, je vous citais à l'instant le tweet de Manuel Valls, qui n'est évidemment pas président, mais ancien Premier ministre, concernant le décès de Nicole Bric. Emmanuel Macron a également tweeté, et lui a salué une femme libre au grand sens de l'État. J'apprends avec tristesse son décès. Cet ami engagé nous manquera beaucoup, dit le chef de l'État. Les incendies dans les Bouches-du-Rhône, 520 pompiers restent sur le qui-vive. La levée du Mistral pourrait causer un nouveau sinistre, alors qu'en Corse, la végétation continue de brûler dans la région de Palneca, au centre de l'île. 190 hectares de pinettes sont déjà partis en fumée et les secours préviennent, le feu ne sera pas maîtrisé avant plusieurs jours. RTL, il est 18h06, l'après-midi a été chargé en émotion à Rouen, en Seine-Maritime, un an après l'incendie du bar Le Cuba Libre. Un hommage a été rendu aux 14 victimes qui ont péri dans le sous-sol de l'établissement où était organisé l'anniversaire d'Ophélie, elle aussi disparue. Pour RTL, Frédéric Veil, vous avez assisté à ce rassemblement.
Oui, il y a eu de la musique, des fleurs, des bougies, des ballons et beaucoup d'émotions, hein, vous vous en doutez, notamment lorsque le père de Meghan a énoncé à la voix tremblante les 14 noms des victimes, 14 jeunes qui ont péri ici même il y a un an.
Julie, Florian, Ophélie, Maverick, nos enfants partis trop vite. Cette journée, elle est pour vous.
Alors beaucoup de dignité hein, de la part des familles venues se recueillir, mais aussi beaucoup de colère car elles attendent toujours un procès, mais surtout des réponses. Rémi Hubert est le père de Zach, qui était le jeune disque jockey du Cuba Libre.
Mon sentiment, cet après-midi, il va vers mon fils. Il est décédé dans des conditions atroces. Donc vous comprenez aujourd'hui que j'ai pas de colère, j'ai pas de haine, parce que ça n'appartenait pas à mes enfants, la haine et la colère. Mais pourquoi ? Il y a quand même des interrogations. Pourquoi cette porte était fermée ? Pourquoi on a laissé faire ces gens ? Pourquoi des responsables ont laissé faire ?
C'est la justice qui devra apporter les réponses à ces familles qui aujourd'hui ont vécu une nouvelle et difficile épreuve. Et pour ne pas oublier les 14 victimes, 14 ballons blancs ont été lâchés.
Frédéric Veil, le correspondant de RTL en Normandie. C'est en quelque sorte un tour de France politique. Il y a 32 étapes et le maillot jaune est porté par Jean-Luc Mélenchon. Ça y est, c'est officiel, la caravane des Insoumis est sur les routes. Un voyage qui va durer jusqu'au 24 août avec un objectif, aller à la rencontre des Français. Et le départ a été donné tout à l'heure à Meaux et Vagednac.
Oui, avant de partir, la caravane insoumise s'est stationnée quelques heures sous la verrière du centre commercial. Autour, une dizaine de militants, tracts à la main. Adrien est l'un d'eux, il sera à bord du véhicule pendant une semaine.
Le premier axe, c'est d'expliquer les conséquences de la loi travail, rencontrer les habitants, essayer de comprendre leur environnement professionnel, voir quel boulot ils font et voir comment ça va les impacter au quotidien.
Et la caravane a un deuxième objectif, informer les citoyens de leurs droits sociaux. Aujourd'hui, c'est David, un militant parisien qui s'en charge.
Il y a énormément d'aides sociales provisionnées et financées, mais que les gens ne touchent pas parce qu'ils simplement ils sont pas au courant. On essaye de regarder avec les gens à quelles aides sociales éventuellement ils ont droit.
Et pour ça, il utilise un simulateur mis en ligne gratuitement par le gouvernement. Et les habitants se prêtent au jeu. Massiré travaille dans le bâtiment, il a 5 enfants et pour l'instant, comme aide, il ne touche rien.
D'après la situation que vous avez décrite, vous êtes éligible à ces aides nationales. Aide au logement, 250 euros, allocation...
Pour moi, c'est une bonne surprise que j'ai découvert aujourd'hui, quoi.
Deux caravanes insoumises vont sillonner la France, l'une par l'est du pays, l'autre par l'ouest, pour finir par se rejoindre à Marseille le 24 août.
Le reportage pour RTL d'Eva Jednak. Il est 18h, passé de 9 minutes, on marque une pause et dans un instant on retourne au stade Raymond Coppa. Angers affronte Bordeaux pour la première journée de Ligue 1.
Charlotte Arrigoni,
RTL Soir.
Il est 18h11. Dans un instant, nous irons à Londres retrouver Jean-Michel Rascol pour les mondiaux d'athlétisme. Mais d'abord le foot, puisqu'un match est en cours. Première journée de Ligue 1, seconde période entre Angers et Bordeaux. Où en est-on, Philippe Audouin ?
Eh bien, le score n'a pas évolué. Toujours un partout après 6 minutes en deuxième période. Mais Bordeaux a clairement pris l'ascendant désormais avec peut-être. Et voilà le deuxième but signé Alexandre Mendy pour les Girondins. L'ancien Guingamp Pec qui est arrivé à Bordeaux à l'intersaison, qui donne l'avantage à Bordeaux. Il était parfaitement servi devant le but d'Angers et il a réussi à glisser ce ballon de l'intérieur du pied droit, alors qu'en première mi-temps c'était Fulgini qui découvre l'élite, lui qui a été recruté par Angers à l'intersaison, qui avait ouvert le score pour le SCO à la 11e minute, et Sankaré avait ensuite égalisé pour Bordeaux à la 27e minute. Bordeaux qui mène donc 2-1 à Angers après 7 minutes en deuxième mi-temps.
J'ai comme l'impression qu'on vous a pris au bon moment, Philippe. Merci.
Exactement.
À tout à l'heure. Le foot encore, je vous signale que cet après-midi Lille a sans problème battu Nantes 3-0. Ce soir à 21h, Marseille accueille Dijon. Match à vivre bien sûr en direct et en intégralité dans Soir de Ligue 1 avec Eric Silvestro. Allez, direction les Mondiaux de Londres maintenant, avec une bonne nouvelle côté français, c'est de l'athlétisme. Renaud Lavillenie s'est qualifié pour la finale de la perche. Il a effacé à son premier essai une barre à 5,70 m. Le champion olympique de Londres, qui a regardé hier soir la finale de Bolt, n'a jamais perdu au stade olympique, Jean-Michel Rascol.
Oui, c'est vrai, Renaud a disputé 3 meetings ici, en plus des Jeux Olympiques, et il n'a jamais connu la défaite. Ce matin, ses deux sauts ont été parfaits et il peut donc préparer sereinement la conquête du seul titre qui manque à son imposant palmarès, Renaud Lavillenie.
C'est pas parce que ce stade m'a toujours réussi que c'est gagné d'avance. Voilà, j'ai eu la chance de vivre un énorme moment ici. Maintenant, c'est à moi de faire en sorte que mardi soir reste une soirée mémorable dans le bon sens, et que je puisse graver à tout jamais Londres dans ma mémoire, quoi.
Un mot sur Bolt et cette drôle de conclusion que vous avez peut-être vécue.
Bah, faut pas se voiler la face. On a vu que cette année, il avait peut-être pas la même préparation que d'habitude. Ce qui a été beau à voir, c'est que même dans la défaite, il est resté un grand homme, quoi. Je pense que malgré tout, ça l'a piqué. Il va vouloir faire quelque chose de gros pour le relais. Après, c'est juste que on peut se poser des questions sur certains, parce que c'est évidemment frustrant de voir quelqu'un qui a été suspendu plusieurs fois être encore dans la partie. Mais voilà, ça fait partie du jeu, quoi.
Un jeu appelé à changer. Aucun athlète convaincu à deux reprises de dopage, comme Justin Gatlin, ne devrait dans un avenir proche pénétrer dans un stade. L'I2AF, la Fédération Internationale d'Athlétisme, choquée par l'impact du scénario de ce 100 mètres, semble enfin décidée à sévir.
Les autres résultats de la journée, Mayedine Mekissi et Johan Koval sont en finale du 3000 mètres steeple. Garfield Darien en demi-finale du 110 mètres haies. La grande finale du soir, ce sera celle du 100 mètres dames à 22h45, malheureusement sans française. J'ajoute que Christophe Lemaître sera ce soir l'invité de RTL en direct de l'équipe. Un tout autre sport, moins traditionnel, dirons-nous, c'est aujourd'hui qu'a eu lieu le 13e championnat du monde de décortiquage de crevettes grises. La compétition, très sérieuse, a eu lieu à Lefrancouc dans le Nord. Il y avait 120 participants. Sur RTL ce matin, vous avez pu entendre Nicole, 10 fois championne du monde. Alors a-t-elle réussi à récupérer son titre ? Le reportage pour RTL d'Emmanuel Bouin.
Ladies and gentlemen, êtes-vous prêtes ? Êtes-vous prêts ?
Dans le chapiteau installé pour l'occasion sur la digue de Lefrancouc, l'ambiance est à son maximum. Et celle que l'on attend, c'est Nicole Vanzinger.
Mais nous allons commencer tout de suite avec quelqu'un d'illustre, bien connu sur Lefrancouc depuis 10 ans. Nous appelons Nicole Vanzinger.
10 fois championne du monde de décortiquage de crevettes grises. On croyait Nicole indétrônable. Mais cette année, elle a dû céder la première place à Monique.
La nouvelle championne du monde de décortiquage de crevettes.
Ah, je suis contente. Ben, il y a 2 ans, j'ai fini deuxième. Et bon, l'année passée, ils étaient molles. Mais cette année, ça l'a été. Ben, pour moi, pêcheur, ça représente beaucoup.
En 10 minutes, la nouvelle championne a décortiqué 121 grammes de crevettes. Nicole a perdu pour 2 grammes. Mais elle le sait, son record sera difficile à battre.
De toute façon, comme on me dit toujours, quand je suis invitée quelque part, on vous invite pas parce que vous êtes la championne, mais vous êtes 10 fois championne. Donc là, c'est un record quand même.
Le reportage pour RTL d'Emmanuel Bouin, l'un des correspondants de RTL dans le Nord.
Charlotte Arrigoni,
RTL Soir.
18h16, nous sommes bien en 2017, mais Martial You et Anne Le Hénaff nous emmènent dans le futur en 2021.
Le journal du futur, Martial You.
Aujourd'hui, nous allons revenir sur la montée en puissance à partir des années 2020 de la réalité virtuelle dans notre quotidien. Une révolution dans le monde du tourisme notamment, mais avec parfois quelques effets secondaires.
Destination 4 juillet 2021.
Ce jour-là, Martial Liu, bonjour.
Bonjour Anne.
Ce jour-là, un groupe de 11 touristes japonais se retrouve victime d'une hallucination collective alors qu'ils visitaient le Moulin Rouge.
Oui, le groupe était arrivé d'Osaka, 3 jours avant le 4 juillet, visite de Versailles, de l'île de la Cité avec le marché aux oiseaux et Notre-Dame, puis le Moulin Rouge. À chaque fois, ils étaient équipés de ces lunettes grand format qui recouvrent les yeux et le front. Cela efface totalement votre environnement. Ce sont des lunettes de réalité virtuelle. Mais le 4 juillet, nos touristes vont tout simplement refuser de sortir de ce monde virtuel dans lequel on les a plongés. Michel Simès.
Oui, il s'agit finalement d'une sorte d'hallucination collective via les nouvelles technologies. Les 11 patients refusaient tous de quitter l'univers de la fin du 19e siècle dans lequel on les avait plongés parce qu'ils se sentaient mieux qu'en 2021. On peut considérer ça comme une sorte de régression un peu nostalgique.
Dans la rue de Paris, je l'ai suivi.
Les 11 touristes forment une communauté parfaite. Leurs casques communiquent entre eux, ce qui fait qu'ils voient leurs compagnons de voyage à leur côté, habillés en costume de l'époque, et peuvent même avoir une discussion en direct. L'illusion est donc, je vous le disais, parfaite. Quand on les emmène à l'hôpital, on les sort de leurs rêves comme des somnambules qu'on éveille en sursaut. Ils sont donc en état de choc et refusent de revenir en 2021.
Mais qu'est-ce qu'ils voyaient dans ces casques ?
Des producteurs de jeux vidéo avaient réussi l'exploit de recréer toute la ville de Paris en réalité virtuelle. C'est-à-dire que lorsque vous portiez ces lunettes, vous pouviez vous promener dans les vraies rues de la capitale, mais en voyant une autre époque. C'est ça qu'ils voyaient, nos touristes.
Ça veut dire qu'ils se promenaient dans les rues de Paris en 2021, mais pas vraiment,
mais,
en fait.
Eh ben non, mais sous les lunettes, eh bien, eux, ils marchaient dans les rues boueuses du XIIIe siècle, sur le parvis de Notre-Dame au temps des cathédrales, place de la Concorde à l'époque de la guillotine, et ils pouvaient frôler les petites femmes de Paris et les danseuses de French Cancan en arrivant au Moulin Rouge.
Mais il n'y a pas de risque d'accident avec ça, parce que les touristes voyaient peut-être Pigalle en 1892, mais ils marchaient dans les rues de Paris en 2021.
Eh ben oui, et heureusement, les montures sont communicantes, les montures de lunettes, et elles alertent quand vous traversez une petite rue du Moyen-Âge qui est devenue au passage un boulevard parisien pour que vous ne soyez pas écrasé. Dans ce cas, ça sonne, et l'écran peut même d'ailleurs se couper pour vous faire voir le danger imminent. On a recensé d'ailleurs très peu d'accidents avec ces lunettes.
Le journal du futur.
C'est un marché donc qui a littéralement décollé, celui de la réalité virtuelle et des casques. Facebook avait investi 2 milliards pour acquérir les casques Oculus. Google avait mis plus de 500 millions dans la réalité augmentée. Microsoft avait aussi son projet. Entre 2018 et 2020, le marché de la réalité virtuelle avait été multiplié par 4 pour atteindre 20 milliards. La futurologue Geneviève Delinière.
Les loisirs ont bénéficié des investissements massifs de ces dernières années. La réalité virtuelle a permis de dessiner des concepts de voitures ou des pièces d'avion en 3D qui divisaient par 4 le temps de construction des prototypes. Dans le commerce, pareil. Quand vous entrez dans un magasin physique, vous achetez 8 fois sur 10. Sur un site en ligne, vous achetez 3 fois sur 100. Avec la réalité virtuelle, on obtenait les mêmes résultats à la maison que dans une boutique de vêtements.
Mais Martial, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'addiction à cette réalité virtuelle ?
Bien entendu, on le voit d'ailleurs dans cette affaire. Paris est une ville magique, elle véhicule tout un tas de clichés, d'images que les touristes du monde entier viennent chercher. Difficile de revenir après dans notre monde actuel. Ce qui est arrivé à nos 11 touristes, c'est qu'ils n'ont pas voulu quitter le Moulin Rouge de la fin du 19e siècle. D'où cette hallucination collective où nos 11 Japonais étaient en crise d'angoisse, persuadés de vivre il y a 130 ans lorsqu'on leur a enlevé leurs lunettes. Certains parlaient même français, c'est ce qu'on a dit. Les spécialistes estiment qu'il ne faut pas utiliser la réalité virtuelle plus de 3 heures d'affilée.
Merci Martial Liu.
Retour 2017.
Merci beaucoup Martial Liu et Anne Le Hénaff pour ce voyage dans le futur. Il est 18h20 sur RTL. Après une courte pause, nous serons en ligne avec Lizardo Lombardia à Lorient. Le 47e festival interceltique a débuté ce week-end.
RTL Soir.
Charlotte Arrigoni.
Je vous emmène à présent dans le Morbihan, puisque c'est là que résonne depuis 2 jours la musique des Biniou et des Bagadou. La 47e édition du Festival Interceltique de Lorient, c'est en ce moment et jusqu'au 13 août. Chaque année, des milliers de personnes s'y pressent. Pour en parler avec nous dans RTL Soir, j'accueille Lizardo Lombardia. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur des festivités. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas ce festival et qui seraient peut-être tentés d'y aller, le Festival Interceltique, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Et puis qu'est-ce qu'on y voit ?
Bon, avant tout, c'est une célébration qui existe depuis 47 ans à la ville de Lorient, au Morbihan, voilà. Et là, c'est le rassemblement des musiques celtiques européennes de tous les différents pays qui appartiennent à cette culture. Donc l'Écosse, l'Irlande, l'île de Man, la Cornouaille, le Pays Galles, la Bretagne et aussi la Galice et les Asturies au nord de l'Espagne. Et qui concentre chaque année 4500 artistes et beaucoup d'activités, pas uniquement musicales, parce que notre programmation, le noyau dur, c'est la musique, mais il y a aussi le cinéma, l'art contemporain, des conférences et surtout, c'est le plus important, c'est le partage, c'est la découverte de pays dans tous les pavillons de chaque pays qui crée la différence et qui fait de la convivialité un atout majeur de ce festival.
Alors, après l'Australie l'an dernier, c'est l'Écosse hein, qui est l'invité d'honneur cette année. Pourquoi l'Écosse ?
L'Écosse, c'est les pays fidèles parmi les fidèles parce qu'il était déjà là en 71 et après, il y a un cycle d'activités. Depuis 91 qui était expérimental et après, de façon affichée en 1996, l'Écosse a été le premier pays mis à l'honneur formellement. Et tous les 8 ans, ça dépend aussi des autres introductions, et il y a un cycle qui permet que chaque pays que j'ai bien mentionné revienne à l'honneur. L'Écosse a été mise à l'honneur en 1996, en 2007, et cette année encore la troisième fois. Donc mais c'est un cycle de mise en valeur, de mise à l'honneur que nous faisons chaque année.
Lizardo Lombardia, les musiques celtes, on le sait, existent depuis la nuit des temps. C'est entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, un festival retour vers le passé un petit peu ?
Pas du tout. Je dois vous contredire. C'est un festival de création, un festival d'avenir. Vous savez, la tradition, nous la construisons chaque jour. Et nous sommes fiers de nos origines, mais nous avons beaucoup plus d'avenir que du passé. C'est une consigne que nous avons très présente. C'est pour ça qu'on voit des générations de jeunes joueurs qui viennent de partout, notamment des cours cette année, et qu'ils font autant de l'électro que de la musique classique ou acoustique, tout simplement. C'est-à-dire que c'est la diversité des expressions qui permet justement de consolider un avenir différent parce que nous, tout simplement, nous adaptons et nous créons chaque jour.
Alors, au total, pendant toute la durée des festivités, je crois qu'il y a 4500 artistes qui sont attendus, plus de 200 concerts. Est-ce que c'est cher d'y participer ou c'est plutôt abordable ? Quelles sont les tranches de prix ?
C'est très, très abordable. Vous savez, les grands concerts tels que Amy McDonald, Ranrir, nous avons autour de 32 euros, et tandis qu'il y a des concerts à 5 euros, à 7 euros, à 10 euros, et aussi il y a les badges des soutiens des festivals, les badges qui permettent l'accès à partir de 22 heures sur les quais, où il y a toujours des activités sans aucun souci, et surtout la découverte de beaucoup de nouveaux talents. Donc c'est parfaitement abordable.
Un mot peut-être sur la sécurité, j'imagine que dans le contexte actuel, la sécurité a été largement renforcée.
La sécurité a été toujours une préoccupation des festivals, étant donné notre volume. L'année dernière, malheureusement, à cause de l'attentat de Nice, on avait rajouté déjà un système assez conséquent de sécurité, dont nous étions autour de 300 000 euros à peu près de coûts. Et cette année, nous élargissons jusqu'à 430 000 euros. Et ça veut dire un 8% de notre budget, qui c'est autour de 6 millions. Ça veut dire que c'est important. Mais ça n'empêche pas que nous faisons en sorte que les publics se sentent en sécurité et surtout qu'ils oublient qu'il y a des contrats sécuritaires. Ça, c'est aujourd'hui, peut-être, malheureusement, je dirais, le prix à payer des toutes activités culturelles et aussi des activités normales dans la vie. Et donc, nous prenons un chance et surtout, nous faisons tout l'effort pour que les publics qui viennent ici, après, oublient tout de suite la contrainte sécuritaire.
Merci, Lisandro Lombardia, d'avoir été l'invité de RTL Soir. Je rappelle que vous êtes le directeur du Festival Interceltique de Lorient. Vous écoutez RTL, il est 18h25.
Armelle Lévy, les tendances de l'été.
Les tendances de l'été avec Armelle Lévy, vous êtes peut-être déjà en train de prendre l'apéritif sur votre terrasse. Alors comment la décorer cette terrasse ? Eh bien Armelle, pourquoi ne pas en faire une pièce à vivre à part entière ?
Oui, en matière de décoration, on fait rentrer le dehors à l'intérieur et le dedans, on l'étend vers l'extérieur. Isabelle Dancy d'Acosta est architecte d'intérieur. La tendance, c'est de fragmenter l'espace de sa terrasse pour en faire plusieurs recoins.
Le coin détente, le coin réception, le coin repas et après, pour aller plus loin, le coin piscine.
Et chaque espace est aussi modulable.
La tendance, en fait, c'est plutôt avoir des espaces qu'on peut remanier facilement, une table extensible et quand les amis sont partis, on replie la table et avec les chaises qui restent, on reconfigure avec des tables basses, des petits espaces plus personnalisés sur sa terrasse.
Le mobilier doit être confortable, mais aussi léger pour être déplacé facilement et résistant pour pouvoir rester dehors toute l'année.
On a fait beaucoup de progrès concernant les tissus d'extérieur. Maintenant, l'eau doit pouvoir passer, les tissus, les matières doivent sécher très vite. Ce sont beaucoup de maillage, de tressage. Vous voyez, ça va même jusqu'aux sangles tissées. Ou alors, complètement à l'inverse, ce sont des tissus comme les carrés des bateaux. Maintenant, si vous avez toujours peur de laisser votre mobilier à l'extérieur, vous avez même des housses pour protéger vos assises de couleur verte qui s'intègrent avec la végétation environnante.
Et la mode cette année, c'est la couleur, Armel.
Oui, on retrouve les mêmes tendances que pour les vêtements.
Il y a un retour du pastel, hein. Le pastel qui peut mettre en valeur une végétation luxuriante comme un espace minimaliste. Par contre, si vous avez une terrasse qui n'est pas très bien orientée, un peu triste, là je vous conseille quand même de rester sur des couleurs vives.
Et ne négligez pas le revêtement de sol.
Vous voyez, quand vous êtes locataire et vous n'avez pas envie de changer le sol de votre terrasse, il ne vous plaît pas, il est terne, vous disposez des tapis un peu colorés comme ça et tout de suite... C'est pas très cher et ça donne une note joyeuse à votre environnement.
Enfin, n'oublions pas l'art du détail, l'éclairage.
Dans une terrasse, vous avez l'éclairage général, des appliques extérieures. Ensuite, vous avez les zones de passage, par exemple pour aller à votre piscine, à votre coin repas. On peut le réaliser avec des petits spots. Et ensuite, donc le coin repas, le coin plutôt lounge, vous mettrez des suspensions, des lampadaires d'extérieur. Pour agrémenter le tout, vous avez vos petites lumières d'ambiance que vous pouvez piquer dans la végétation, des photophores déplaçables, des baladeuses. Ce qui fait que même si vous n'êtes pas sur votre terrasse, vous pouvez de l'intérieur bénéficier de cet éclairage d'ambiance.
La terrasse est devenue vraiment le prolongement de la maison, de quoi en faire un véritable havre de paix.
Merci Armel, à la semaine prochaine pour de nouvelles tendances de l'été. Il est 18h28, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Après la pub, c'est l'heure de RTL en direct de l'équipe avec vous, Sylvain Charlet, bonsoir.
Bonsoir, à tout de suite.
À tout de suite,
avec Christophe Lemaitre notamment.